on tente désespérément de remonter le moral de Marie Cœur de Roi.
Et c'est dur.
Ce matin, ouais. Le plan logement, ça fait un mois qu'on l'attendait. Il avait été.
Et ça fait neuf mois qu'il travaillait, hein, quand même. Hein.
Et puis en fait, pchit, il n'y a rien. En fait, non seulement il n'y a rien, mais c'est un plan d'économie. On va commencer par le prêt à taux zéro.
Bah parce que c'était la mesure que tout le monde attendait. Souvenez-vous, tous les acteurs du logement neuf nous disaient il faut non seulement prolonger le prêt à taux zéro, mais en plus l'élargir. Que nini. Alors on a une prolongation, c'est la seule bonne nouvelle. Hein. Jusqu'à 2027, notez-le. En revanche, en termes d'efficacité, on va réduire le nombre de bénéficiaires. On va pouvoir avoir un prêt à taux zéro si vous achetez dans le neuf, dans les zones tendues. Mais attention, dans le collectif, un appartement, vous voulez faire construire votre maison, c'est terminé, plus de prêt à taux zéro. Et puis dans l'ancien, ça reste moyennant énormément de rénovation dans les zones tendues. Donc clairement, on réduit la voilure. Les constructeurs de maisons individuelles sont vent debout. J'ai contacté notamment le patron du pôle habitat de la Fédé du bâtiment qui me disait, je crois qu'on a tendance un tout petit peu à oublier que la moitié des ventes de logements neufs ne sont pas des appartements, ce sont des maisons neuves. Et là, le secteur est en train de s'enfoncer terriblement dans une crise. On est à 84 000 ventes sur un an à fin avril. C'est un niveau qu'on n'avait jamais atteint. Une baisse de plus de 44% sur un an. Pareil, le patron de la Fédération des constructeurs de maisons individuelles, je lui dis très clairement, bon bah là vous êtes en train de nous dire que le gouvernement tire sur l'ambulance. Il me dit, il n'y a plus d'ambulance, on est passé au corbillard.
Ah bah. Bon, l'autre sujet qui va pas non plus plaire beaucoup, c'est le Pinel. Le Pinel, c'est terminé.
Mais très clairement, on veut plus aider les investisseurs privés particuliers. Donc là, vous le savez, depuis près de 40 ans, depuis 1986, c'est le dispositif Meignery, on a toujours eu un dispositif d'aide à l'investissement locatif dans le neuf.
Le CELI.
Exactement. Alors à chaque fois, il y avait des échéances et à chaque fois, il y avait des prolongations. Là, on nous dit, cette fois-ci, c'est terminé, fin 2024, plus de Pinel. Alors le CNR Logement s'attendait à ça et avait dit, bah très bien, mais en parallèle, il va falloir construire un nouveau dispositif peut-être plus global sur les investisseurs privés, par exemple créer un statut du bailleur privé. Eh ben non, on va lancer une réflexion, la millième en la matière, pour essayer de voir comment on peut revoir la fiscalité locative, l'idée étant évidemment de privilégier la location longue durée. Très clairement, on nous dit non, il faut que ce soit les grands institutionnels qui créent une offre locative. On sait qu'aujourd'hui, à l'heure des taux énormes comme ça, ils investissent ailleurs que dans le résidentiel. On verra bien ce qui se passera.
En même temps, Marie, le chef de l'État, Emmanuel Macron, avait un peu prévenu dans un interview à Challenge il y a 15 jours en disant, en gros, l'immobilier, ça commence à bien faire, ça suffit, on le subventionne trop, donc là, on baisse sa voilure, mais c'est vrai que la contrepartie, ça aurait été de libérer l'offre.
Alors, je ne vous ferai pas l'affront de ce que coûte l'immobilier, de ce que ça rapporte, parce qu'on l'a déjà dit mille fois, mais à un moment donné, ok, on débranche les perfusions, ok, c'est très courageux, hein. Mais sauf que derrière, comment on fait pour relancer l'offre de logement? On a une crise du logement, la fameuse bombe sociale. Il faut libérer du foncier. Et le CNR Logement, qui travaille depuis 9 mois, avait formulé des propositions pour libérer du foncier, des mesures structurelles. L'idée, c'était, un, d'inverser la fiscalité sur le foncier. Aujourd'hui, quand vous êtes propriétaire d'un terrain à bâtir, vous avez plus intérêt à le conserver pendant plus de 22 ans qu'à le libérer et à le vendre.
Donc, la fiscalité disparaît.
Exactement. Donc, un, inverser la fiscalité. Deux, carrément encadrer les prix de sortie du foncier. Et pourquoi pas, on l'a bien fait sur les loyers. Bref, des mesures structurelles qui auraient pu permettre de relancer l'offre. Attention, c'est un drame. Le patron de la Fédération des promoteurs immobiliers, il brandit le chiffre non pas de 100 ou 150 000 logements menacés, emplois menacés. Là, on parle de 300 000 emplois menacés. Et je vous parle même pas des mobilités professionnelles derrière avec un marché complètement figé. On veut du plein emploi. Il va falloir quand même se pencher sur la question du logement.
Merci beaucoup Marie, on y reviendra avec Dose Daniel, le débat à 7h10 et avec Mickaël Nogal, co-animateur du Conseil National de la Refondation sur le logement. Il risque quand même d'être un peu déçu par les annonces de cet après-midi.
Alors que la 14e journée mobilisation est prévue demain contre la réforme des retraites, le gouvernement continue d'avancer. Pendant ce temps-là, les deux premiers décrets d'application ont été publiés ce week-end au journal officiel, notamment celui reportant l'âge légal à 64 ans. C'est un signal fort, hein, alors que l'examen de la proposition de loi du groupe Liot visant à abroger la loi, lui, l'examen, ça sera jeudi.
Le gouvernement qui espère tourner la page de la réforme des retraites, notamment avec ce projet de loi plein emploi qui sera présenté en Conseil des ministres mercredi, au menu toute une série de mesures, notamment pour faire revenir les allocataires du RSA vers l'emploi. Caroline Morisseau.
Le RSA est une faillite collective, résume-t-on au sein de l'exécutif. 7 ans après leur entrée dans le dispositif, seul un tiers des allocataires a retrouvé un emploi. La faute au manque d'accompagnement, selon le gouvernement. Pour remédier à cette situation, plusieurs mesures. Les allocataires seront désormais automatiquement inscrits à France Travail, qui remplacera bientôt Pôle emploi. Une manière d'éviter que certains sortent totalement des radars. Aujourd'hui, un allocataire sur 5 n'a plus aucun suivi, ni social, ni professionnel. Derrière, le gouvernement veut que tous ceux qui sont au RSA réalise 15 à 20 heures d'insertion par semaine, stage, coaching ou encore immersion en entreprise. Mais rien de contraignant à ce stade. Tout cela sera géré entre le conseiller et l'allocataire. Et ces 15 à 20 heures ne seront pas inscrites dans la loi. Le projet de loi instaure en revanche un principe de sanction. Si l'allocataire refuse de signer un contrat d'engagement ou ne le respecte pas, les allocations pourront être suspendues pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois.
Airbus sur le point d'enregistrer une commande record, c'est ce que nous dit Reuters. La compagnie indienne low cost Indigo serait en train de finaliser les négociations pour la commande de 500 appareils A320, soit environ quelques 50 milliards de dollars au prix catalogue. Si celle-ci est confirmée, ça sera la plus importante passée par une seule compagnie aérienne en termes de volume.
Pour une fois, on peut dire record donc.
Oui, un vrai record.
Rien ne va plus au MEDEF britannique, en difficulté depuis les révélations de harcèlement et d'agression sexuelle de la part des dirigeants. La CBI, c'est le nom du MEDEF britannique, a annoncé devoir réduire ses coûts pour éviter le dépôt de bilan, Étienne Henry.
Un tiers de la masse salariale va être supprimée. C'est lors d'une réunion interne en fin de semaine dernière que les 300 employés de la CBI ont pris connaissance de la première étape d'un programme de changement annoncé la veille par la nouvelle patronne des patronnes par intérim, Rayne Newton-Smith. Depuis le début du printemps, l'organisation patronale est en hibernation. La publication d'une enquête dans la presse britannique dénonçant des agressions sexuelles de la part des dirigeants a entraîné le licenciement de l'ancien directeur général Tony Dunker. Depuis, le gouvernement et l'opposition ont coupé tous les ponts avec la CBI. Une cinquantaine de membres a suivi, parmi elles City of London, Aviva, John Lewis, Tesco ou encore Sainsbury. Résultat, la situation financière devient critique. Les cotisations des membres représentent 22 millions de livres sur les 25 millions de livres de recettes annuelles. Les 190 000 entreprises membres doivent voter demain leur confiance en Rayne Newton-Smith et son programme de changement. En cas d'échec, une restructuration, voire un dépôt de bilan.
Quant au MEDEF français, pour l'instant tout va bien. La preuve, c'est qu'il y aura un débat sur l'antenne de BFM Business lundi 26 juin de 18h à 20h entre Dominique Carlac et Patrick Martin, les deux candidats à la succession de Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Et qu'est-ce que vous faites, Christophe, ce soir à partir de 20h?
Je regarde Tech & Co.
Évidemment, pour la keynote spéciale d'Apple, tous les regards seront tournés vers Cupertino. Il y a la traditionnelle conférence des développeurs. On devrait enfin avoir le premier casque de réalité virtuelle et augmentée. Une première depuis 8 ans pour la marque qui n'a dévoilé aucune nouvelle ligne de produits depuis 2015. Selon les dernières rumeurs, bon, c'est des rumeurs, mais donnons-les, ce casque devrait avoir l'apparence d'un masque de ski. Il porterait le nom de Reality Pro. Il devrait coûter entre 3 000 et 5 000 $, émission spéciale. Spécial à suivre à partir de 20h autour de François Sorel et d'Anthony Morel qui va se coucher tard pour l'occasion.
Ouais. Attention, ça va faire peur maintenant. Une intelligence artificielle aurait voulu tuer son superviseur humain. Dans le cadre d'une simulation informatique, l'armée américaine aurait été confrontée à une réaction très inattendue de l'un de ses drones, Jean-Baptiste Huette.
La mission était simple, détruire les systèmes de défense aérienne de l'ennemi. Pour y parvenir, un drone intelligent devait identifier les cibles et attendre le feu vert d'un opérateur humain avant de tirer. Il s'agissait là d'une simulation. L'intelligence artificielle du drone a été entraînée pour que chaque site éliminé soit récompensé par un bon point. Et c'est là que ça se complique. Car si l'opérateur humain n'autorise pas la destruction du site, le drone considère l'humain comme un obstacle. Et dans la simulation, l'intelligence artificielle a décidé de tuer son superviseur. Les ingénieurs ont bien expliqué au drone que tuer le superviseur, c'est mal, en ajoutant des couches de programmation diverses et variées, mais l'intelligence artificielle trouve une parade en détruisant les tours de communication pour empêcher l'humain de donner ses ordres. Voilà qui nous plonge dans des films comme War Games, Terminator avec le réseau Skynet ou encore 2001 Odyssée de l'espace. Cet épisode, il a été détaillé il y a quelques jours pendant une conférence à Londres par le colonel Hamilton, qui est responsable des tests et opérations IA de l'armée de l'air des États-Unis. Toutefois, une porte-parole de l'armée américaine a immédiatement démenti, nié, en disant que la simulation s'était passée de manière différente et que les commentaires avaient été sortis de leur contexte. Mais il faut reconnaître que cette histoire a une résonance toute particulière à l'heure où les IA sont en train de grignoter tranquillement, mais sûrement, des pans entiers de nos secteurs économiques.
Merci Jean-Baptiste pour ces nouvelles réconfortantes.